Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, notre thème est la précarité en France, avec Karine Zivulski, déléguée départementale des Alpes-Maritimes du Secours catholique Caritas. La pauvreté et la précarité peuvent sembler des thèmes loin de nos préoccupations. Cependant, le constat est édifiant. La part de la population pauvre augmente depuis les années 2000 en France. 5 à 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, en fonction des modes de calcul, soit 5 à 14 % de la population, en suivant diverses études et rapports, dont ceux de l'Observatoire des inégalités. La majorité des personnes en recherche d'aide sont des femmes, la plupart du temps avec enfants. Les conséquences sont multiples. Problèmes d'alimentation, de logement, de santé, d'éducation. De nombreuses institutions et associations luttent contre la pauvreté et œuvrent pour améliorer la situation. Nous n'évoquons pas des personnages de Hugo ou de Zola, mais des personnes que nous côtoyons tous les jours, qui font partie de la société et sont exclues d'un certain nombre de droits et d'activités. Leurs droits fondamentaux ne sont plus assurés et sont même bafoués. Quel regard portons-nous sur ces personnes ? Comment les aider sans les assister ? Passer de l'aide gratuite à une participation active et une entraide ? Comment les associer aux politiques et aides mises en œuvre ? Comment leur redonner la place de citoyen qui est la leur ? Comment accorder une place digne aux exilés en situation de précarité ? Nous allons tenter d'apporter des réponses à ces questions et aborder cette situation de la précarité en France avec notre invitée, Karine Zivulski, que nous retrouverons après la pause musicale, Africa Challenge de Toumani Diabaté.
Karine Zivulski, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de notre émission, nous allons prendre le temps de faire un peu l'historique de l'association à laquelle vous appartenez, le Secours catholique Caritas. Mmh. Là, est-ce que vous pourriez nous brosser en quelques mots l'origine de cette association, de ce mouvement ? Quand est-ce qu'il a été créé ? Pourquoi ?
Le mouvement a été créé en 1946 par Jean Rodin. C'est aussi l'époque de la sécurité sociale, des grandes créations en France, suite à la guerre, à la reconstruction. Et en fait, le Secours catholique est une association, du coup, qui est fondée sur l'évangile, service d'église, qui surtout remplit un devoir de charité pour l'ensemble de la population de façon inconditionnelle. Elle appelle toute personne à s'engager pour vivre la rencontre, l'entraide, renforce les capacités à d'agir pour tous, lutte contre les causes de la pauvreté, d'inégalité, d'exclusion. et propose des alternatives. Mais aujourd'hui, le Secours catholique, qui fait partie du réseau Caritas au niveau mondial, c'est avant tout 900 salariés, 60 000 bénévoles en France qui œuvrent tous les jours et luttent contre la précarité et surtout l'inclusion des personnes dans la société.
Vous dites Secours catholique et Caritas, c'est pas exactement la même chose ?
Non, enfin, Secours catholique est la branche Caritas en France en fait.
Et Caritas, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est un ensemble d'associations au niveau international.
Qui œuvrent avec les mêmes missions ?
Tout à fait, tout à fait.
Alors justement, quelles sont vos missions très précisément ?
La lutte contre la pauvreté, mais surtout appeler toute personne à s'engager et renforcer les capacités de tous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre activité.
D'accord. Vous avez une activité qui repose sur un certain nombre de valeurs. Vous êtes confessionnel au départ.
Oui.
Je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Quelles sont les valeurs fortes
de
votre
mouvement ? On est très proche de l'Église, il faut dire. Nous sommes très proches de l'Église. Après, voilà, non, on reste ancré dans notre temps avec toutes les personnes. Comme je disais, je parlais d'inconditionnalité et c'est vraiment un principe phare de notre association. Et donc, nous agissons avec les personnes. Alors, les bénévoles et surtout les personnes en précarité. Nous sommes tous des acteurs, en fait, du Secours catholique.
D'accord. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Comment est-ce que vous fonctionnez au niveau national ?
Alors, au niveau national, il y a un siège national. Hein, c'est une tête de réseau avec 72 délégations disséminées sur l'ensemble du territoire. Donc ici, dans les Alpes-Maritimes, il y a une délégation qui regroupe à peu près 530 bénévoles et 8 salariés. C'est ce qui fait notre force, on en parlera aussi, avec un maillage territorial assez vaste et non pas uniquement un siège d'où partirait l'ensemble de nos actions. Donc un maillage territorial sur l'ensemble du département, aussi bien dans le Haut-Pays que sur la côte.
D'accord, nous rentrerons dans le détail justement en deuxième partie pour savoir ce que vous faites très précisément, mais globalement, au niveau français, que font les bénévoles et les salariés qui sont engagés dans le Secours catholique ?
Alors les bénévoles, en fait, montent les projets, mettre en place des dispositifs pour aider les personnes concrètement. Alors il y a des choses qui se retrouvent, hein, les accueils écoute, l'accompagnement global. On est souvent guidé un peu par le national, mais aussi par des situations très localisées. Ça, c'est aussi sur la base de diagnostics faits sur le terrain. Et en fait, les salariés, nous qui sommes si peu nombreux, nous sommes là pour accompagner en fait l'action des bénévoles, pouvoir la structurer, la coordonner, aider en fait les équipes à se monter et à porter leurs projets sur les territoires.
Et donc, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, justement, dans le Secours catholique et à devenir, finalement, délégué départemental ?
J'ai toujours été dans le service public ou milieu associatif sur les territoires, en France ou à l'étranger, dans ma vie professionnelle. En fait, ce qui m'a porté beaucoup, c'est le contact avec le terrain. Mon précédent poste était plutôt dans une grande institution, alors qui œuvrait contre la pauvreté, une institution de la sécurité sociale, mais loin du terrain et des réalités de terrain. J'avais envie de retrouver vraiment cette proximité. Travailler avec les bénévoles, c'est un vrai bonheur, c'est très ressourçant, ça donne confiance, en fait, c'est plein d'espoir, puisque finalement, c'est la solidarité d'une société qui s'anime au travers de ses bénévoles. C'est pas toujours facile, mais voilà, il y a ce côté très ressourçant. Et voilà, et le projet du Secours catholique de faire avec les personnes en précarité, de monter les projets avec eux et surtout de répondre à leurs attentes est très intéressant, je trouve, très visionnaire, qui était très visionnaire de la part de Jean Rodin à l'époque. Enfin, voilà.
Donc dans le cadre de votre activité, vous avez beaucoup de contacts avec les personnes de terrain, non seulement les bénévoles, mais également les personnes auprès desquelles vous intervenez.
Tout à fait.
Vous travaillez avec elles.
Ça fait partie, on va dire, ça fait partie aussi de notre mode de fonctionnement dans les équipes. Si je prends l'exemple de notre accueil de jour à Nice, beaucoup des personnes accueillies deviennent des bénévoles. Au bout d'un moment, quand on ouvre cinq jours par semaine, on ne sait plus qui est qui, en fait. C'est plutôt chouette, chacun se sent chez soi. Moi, je trouve que c'est un pari gagné de ce côté-là.
D'accord. Je voudrais qu'on aborde maintenant le problème ou la question de la pauvreté, de la précarité, de la paupérisation. On va commencer peut-être par quelques définitions, peut-être, pour clarifier le propos. Quand on dit qu'une personne est en précarité, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, en précarité, en fait, c'est plutôt une fragilité. On est un petit peu sur le fil du rasoir. On peut tomber d'un jour à l'autre dans la pauvreté, qui, elle, a une définition alors plus pécuniaire, mais... On l'entend beaucoup plus large au Secours catholique. La plus grande des pauvretés, on le constate aujourd'hui au Secours catholique, c'est l'isolement, par exemple. L'isolement des personnes que l'on reçoit. 60% des personnes que l'on reçoit n'ont ni liens familiaux, ni amicaux, et sont vraiment seules. Et en fait, c'est un peu retrouver ce lien. Nous, on cherche à recréer ce lien et constituer un socle pour cette personne. On aide des personnes qui sont malades, souvent, qui font des séjours à l'hôpital. Et en fait, le secours remplit vraiment ce rôle de soutien en permanence. Enfin, voilà.
D'accord, vous essayez de rompre l'insécurité,
oui,
finalement.
L'insécurité et de donner de l'espoir et de travailler avec la personne son projet.
D'accord. Et la pauvreté, en revanche, n'est pas nécessairement reliée à la précarité. Comment on définit la pauvreté en France aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, si on prend d'un point de vue très statistique, la pauvreté, c'est quand on se situe au niveau, en dessous du seuil de pauvreté, qui est le revenu médian en France. Donc on pourrait dire, donc le revenu de médian, c'est...
Autant de salaires au-dessus qu'en dessous.
Voilà, donc c'est 2018 euros, et le seuil de pauvreté est à 1211 euros. Nous, au Secours catholique, la moyenne des revenus de personnes que nous recevons est de 538 euros. Donc très très basse.
Très inférieure au seuil de pauvreté.
Nous rencontrons au Secours catholique l'extrême pauvreté. Donc c'est un premier constat. Beaucoup de personnes que nous recevons n'ont pas de ressources, ou très peu, ou vivent de ressources uniquement de transfert, n'ont pas eu accès à leurs droits. Donc c'est vraiment des points sur lesquels on va travailler avec eux.
Est-ce qu'au niveau français, vous avez quelques statistiques, quelques chiffres à nous donner en termes de nombre de personnes qui sont en situation de pauvreté? Dans quelle région de France se situe la pauvreté?
Alors,
dans les villes, dans les campagnes?
Partout. C'est pas tout à fait la même pauvreté. On ne retrouve pas, on le voit dans notre rapport, mais aussi on le voit dans les rapports de la Fondation Abbé Pierre, d'autres grandes associations. La pauvreté est partout. On a une pauvreté économique dans le nord de la France, par exemple. On en a une très grande aussi due au statut précaire des personnes dans le sud de la France. Et on a, dans la région parisienne aussi, des zones très très pauvres. On peut dire, à Nice, on pourrait croire, par exemple, dans le département, que nous sommes épargnés par cette situation. Or, pas du tout. Enfin, on a des quartiers qui sont extrêmement pauvres. On a souvent l'image de Marseille, 25% de taux de pauvreté. Sur Nice, on est à 21%, donc c'est aussi très, très fort. Donc, et en milieu rural, en fait, c'est beaucoup plus caché. On s'en est rendu compte, nous. Alors, on le sait de façon statistique, on le sait grâce aux équipes qui œuvrent dans le haut pays, mais on en a pris conscience lors de la tempête Alex, et on a été, notre principe d'action lors des urgences, c'est d'aller au-devant des personnes, d'aller chez elles, de parler, et c'est vrai qu'il y a une extrême pudeur de ces personnes qui ne veulent pas parler de leur pauvreté, de leur situation, et on a découvert des situations extrêmement précaires, en fait.
Donc c'est dans des situations de catastrophe naturelle, comme la tempête Alex que vous évoquiez, que vous découvrez la réalité de certaines personnes. Parce que la pauvreté est attachée à quoi? Ou quelle est la première raison de la pauvreté?
On est, alors, on pourrait dire de façon très statistique, comme je disais, c'est un manque de moyens financiers, mais c'est aussi l'isolement. C'est-à-dire quand on ne fait pas appel non plus à l'ensemble de ses droits, parce qu'on est très isolé ou en retrait, très loin des institutions, du coup, on est pauvre. Enfin, on peut être pauvre. Il y a l'aspect pécuniaire, mais qui n'est qu'une conséquence finalement d'une situation humaine à un moment donné.
Alors justement, quelles sont ces conséquences? La pauvreté engendre, disons, un manque de capacité financière, pécuniaire, mais a d'autres conséquences en termes de perte de dignité humaine, certainement, etc. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui
un isolement, un manque de réseau? Enfin, quand on est aujourd'hui, par exemple, on sait que la plupart des personnes qui sont à la rue, enfin, beaucoup d'entre elles sortent de l'aide sociale à l'enfance. Clairement, enfin, je prends cet exemple parce qu'il est assez significatif. Ce sont des personnes qui ont eu un parcours familial chaotique, avec une prise en charge plus ou moins correcte par le département, et qui, en fait, à 18 ans, se retrouvent sans rien. Et donc, c'est des personnes qui n'ont plus aucun lien, pas de socle, en fait. Je pense que c'est cette question de socle, à un moment donné, où la personne se sent accompagnée, où elle peut toujours, à un moment, frapper à la porte de quelqu'un, ou être aidée, qui n'existe pas pour certains, pour beaucoup d'entre nous, en fait, de nos concitoyens, enfin, des personnes qui vivent autour de nous. Et donc, au Secours catholique, on tend à vouloir recréer ce lien qui permet aux personnes de pouvoir continuer, construire un projet, et nous les accompagnons dans ce sens.
Accord à côté sur... Un certain nombre de personnes touchent le RSA, par exemple.
Oui.
Ceci étant, lorsqu'on écoute un peu les statistiques, les informations, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui auraient droit,
oui,
mais qui ne perçoivent pas le RSA.
Oui.
Pour quelles raisons?
Alors, il y a des gens qui sont très très loin des institutions. Alors moi qui ai travaillé dans la sécurité sociale, en fait ce que je peux dire c'est que souvent les dispositifs, l'accès au droit est travaillé d'un point de vue de l'intérieur. En fait, qu'est-ce qui est facilitant pour l'organisme ? Pendant très longtemps ça a été ça, donc progressivement certaines personnes se sont éloignées en fait. C'est compliqué, on envoie 10 fois ses papiers, c'est pas enregistré et à un moment donné les gens laissent juste tomber. On peut parler aussi du 115, quand on appelle 10, 15 fois par jour tous les jours, il y a un moment donné les gens n'essayent même plus. Et nous-mêmes, nos bénévoles, ont du mal à un moment donné de continuer. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un sursaut des institutions pour se dire, en fait, quels sont les meilleurs moyens à un moment, comment on peut toucher les personnes pour qu'elles puissent avoir accès à leurs droits. Nous, nous battons pour ça, en fait. Nous avons ce volet d'aider les personnes, mais on a aussi tout ce volet plaidoyer qui permet à un moment aussi de dire aux institutions, travaillons ensemble pour que l'accès aux droits soit effectif.
Il y a également un accès à ces personnes et de leur part, la connaissance de leurs droits, je pense.
Tout à fait. Oui. C'est pour ça, travailler, c'est aussi bien connaître ses droits, bien connaître en fait cet accès, comment il se fait. On parle de dématérialisation, clairement aujourd'hui, tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils numériques. Nous avons mis en place, nous au Secours, il y a 2 ans en arrière, un projet numérique pour faire monter en compétence nos bénévoles par rapport à ça. Nous avons travaillé avec la CAF et la CPM pour nous indiquer un peu comment aller sur leur site, comment être à l'aise, en fait, sur leur site, pour qu'on puisse accompagner au mieux les personnes, en fait. Voilà, pour que nous puissions, à un moment, mieux les accompagner et les orienter aussi vers ces organismes quand on perçoit qu'il y a un droit potentiel. C'est un moyen d'action pour nous. Alors, le but, n'est pas de se substituer à ces organismes. Donc, c'est pour ça que je parle du plaidoyer, parce qu'il est important, c'est-à-dire c'est à un moment donné, c'est constater, aider. Donc, on traite de situations très particulières, hein, tout le temps. Mais derrière, il y a toute une action qui se met en route vis-à-vis des institutions pour leur faire part des difficultés que rencontrent les allocataires ou les personnes bénéficiaires.
Et quels sont les premiers problèmes qui se posent à ces personnes ? Quand on regarde le budget des Français, la première partie la plus importante est dédiée au logement. Mm-hmm. Est-ce que vous rencontrez des problèmes de mal-logement ou de non-logement ?
Complètement. Alors, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre beaucoup de situations avant d'impayé de loyer sur lesquels on a beaucoup de mal en fait à agir. C'est-à-dire qu'on a tout un volet d'aide financière qui nous permet à un moment donné d'aider les personnes. On a connu l'année dernière une explosion en fait des impayés de loyer. C'est compliqué. Alors on renvoie vers les services sociaux pour qu'ils puissent à un moment déclencher tous les dispositifs qu'il existe, parce qu'on ne peut pas non plus assurer l'ensemble des choses, mais c'est un vrai problème. Sur la Côte d'Azur notamment, il y a quand même 22 communes carencées dans le département, ce qui est un record, et pas assez de logements sociaux. Donc, en fait, toute la chaîne d'accès au logement est complètement grippée, et ça, c'est un vrai problème, en fait. Et nos bénévoles se sentent vraiment démunis par rapport à cette question. Donc, quand on peut le faire, on préserve le maintien dans le logement. On essaye au maximum, parce qu'on sait qu'y retourner, ça sera vraiment compliqué. Et d'un autre côté, là, on est vraiment sur aussi du plaidoyer, et on essaye d'accompagner les personnes vers un accès au logement.
Alors, si on regarde les statistiques de l'INSEE, on se rend compte qu'à peu près 60% des personnes en situation de pauvreté sont des femmes. Mm-hmm. Il y a un fort déséquilibre mm-hmm. entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'au niveau du Secours catholique, vous retrouvez effectivement ce déséquilibre ?
Oui, complètement. En fait, les femmes sont désavantagées, en fait. Alors, on le sait, hein, tout au long de leur vie, quelque part, de la naissance jusqu'à la retraite. Désavantagé, c'est-à-dire que bon, l'égalité n'y est pas encore. On le voit dans le travail, le déséquilibre de revenus entre un homme et une femme. Une carrière plus hachée, c'est souvent la femme qui se met en retrait quand elle a des enfants. Et quand elle divorce, une difficulté des fois à faire valoir ses droits auprès de son ex-mari ou compagnon. Et donc une employabilité plus faible du fait qu'elle a la garde des enfants et des emplois à temps partiel. Tout ça, ça se répercute jusqu'à la retraite, en fait, puisque la retraite, finalement, ne fait que constater cette carrière hachée avec des salaires moindres. Et donc, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, quand on va dans les accueils, notamment nos boutiques solidaires qui revendent ou qui distribuent des vêtements peu chers, il y a beaucoup de femmes avec enfants qui viennent nous voir. Et quand on discute avec elles, moi, ce qui m'impressionne, dans le mauvais sens du terme, c'est la charge mentale. La charge mentale qu'elles ont, en fait, au quotidien pour pouvoir boucler les fins de mois. C'est-à-dire que là, je vais acheter un t-shirt à 50 centimes. Comment ma fille va pouvoir manger à la cantine ? Et là aussi, on a vraiment un rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit des demandes d'aide financière pour la cantine, on interroge la ville pourquoi il n'y a pas de tarifs sociaux. À chaque fois, on réinterroge parce que cette charge mentale, c'est juste pas possible. À un moment, c'est juste pas possible. Enfin, c'est trop important. Et donc, ces femmes, bon, elles sont en ville, elles sont à la campagne. On la retrouve un peu partout, en fait. Et c'est vrai que, alors, en milieu rural, c'est souvent plus caché encore, comme je disais, mais on est face à des femmes d'un certain âge, plus isolées, en fait. Il y en a beaucoup aussi qui sont parties vivre leur retraite dans le moyen ou au pays, et du coup, qui se retrouvent très isolées là où elles sont.
Et donc, en termes de pyramide des âges, est-ce qu'on retrouve des femmes sur tous les âges, ou est-ce que vous avez des catégories plus particulièrement touchées par la pauvreté ?
Non, nous retrouvons des femmes dans tous les âges, en fait. Lors de notre dernier rapport, on avait identifié 4 profils de femmes, donc des femmes jeunes, éloignées de l'emploi, des femmes étrangères en inactivité. Il faut savoir aussi qu'on a une part de personnes qui sont en demande d'asile, et il y a des femmes parmi elles. Des femmes plus âgées, isolées, c'est celles dont je parlais, surtout dans les campagnes, et des femmes actives. Encore une fois, celles qui souvent ont des enfants, qui sont en travail à temps partiel, enfin, souvent précaires, et pour lesquelles la survie en dignité est un combat quotidien.
En seconde partie, on abordera plus particulièrement le terrain. Juste une question avant qu'on passe à la pause musicale. Qu'est-ce qui caractérise la pauvreté dans les Alpes-Maritimes, et est-ce que, par exemple, il y a un lien plus particulièrement avec les migrants qui arrivent et les situations des femmes migrantes qui arrivent?
Bien sûr. Alors, du coup, nous sommes une terre de passage, puisque nous sommes proches de l'Italie, et effectivement, beaucoup de personnes arrivent en France via la frontière à côté de Menton. Donc, nous recevons effectivement pas mal de personnes. Alors, notamment, c'est quelque chose d'assez caractéristique sur Nice, puisque nous gérons le plus gros accueil de jour de la ville de Nice, avec 200 à 300 personnes jour. Et parmi eux, il y a une proportion non négligeable de migrants qui viennent. Alors, pour beaucoup qui passent, qui ne font que passer, parce qu'après, leur parcours peut aller beaucoup plus loin, dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Mais pour ceux qui souhaitent s'arrêter et faire leur demande d'asile, donc nous les accompagnons au niveau de notre association et d'autres associations. Et il y a effectivement beaucoup de femmes parmi ces personnes, des femmes qui ont subi des violences dans leur pays, qui ont fui, qui ont eu un parcours assez... je sais pas comment le décrire, hein.
Dur, difficile,
long, enfin, semé d'embûches. Elles fuyaient la violence, elles l'ont trouvée tout au long de leur parcours. Elles se retrouvent en France et finalement, on se rend compte qu'il y a peu de répit pour ces femmes. Nous essayons de leur donner un peu de répit, de les accompagner au mieux. Mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons terminer là cette première partie par une pause musicale. Nous allons écouter Silence de Bernard Lavilliers.
Juste à côté, tout paraît si calme. On peut dire que c'est l'été qui berce sa palme. On peut dire que c'est l'enfer qui te déshabille et la honte qui te serre. La rue juste à côté, une femme pleure, les yeux creux, le dos courbé, une femme a peur, un enfant au regard vide va rasant les murs, il ne joue pas, il se ride. De l'autre côté de la rue, des nombres appellent, hors de portée de vue, il y a ce mystère. Plus le soleil est dur, plus l'ombre est noire. désespoir. Dans la rue, juste à côté, un drame quotidien. Le silence est bien plombé. Parle de rien. Je sens bien que tout se sait. Même le pire, dans le silence emmuré, dans la rue juste à côté. Je veux que t'y penses. Y a une femme au dos courbé, dans l'indifférence. Elle ne dit rien, elle a peur. Juste au bord du vide, et son fils attend son heure. De l'autre côté de la rue, des nombres impairs, hors de portée de vue, y a ce mystère. Plus le soleil est dur, plus l'ombre est noire. De l'autre côté du mur, le désespoir.
Nous poursuivons sur le thème de notre émission consacrée ce soir à la précarité en France, avec Karine Zouvleski, déléguée départementale 06 du Secours catholique Caritas. Nous avons effectivement, dans un premier temps, abordé l'histoire très très schématique du Secours catholique et une vue d'ensemble de la précarité et de la paupérisation en France. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail du comment. Et on va aborder d'abord les principes d'action. Parce qu'en fait, au-delà de toutes les aides et toutes les initiatives qui sont mises en place, vous avez un projet de société qui s'appelle « Ensemble construire un monde juste et fraternel ». Donc vous déclinez en mission, en valeur, en principe d'action. Beaucoup peuvent adhérer à ces principes. Ce qui est intéressant, c'est d'appréhender comment vous les mettez en œuvre concrètement. C'est-à-dire agir avec les personnes qui vivent la pauvreté. Comment vous arrivez à les insérer dans l'action, sachant que c'est une volonté commune à beaucoup d'ONG de vouloir effectivement faire participer ces personnes. On a un peu du mal à comprendre comment quelqu'un qui a une charge mentale, qui est dans la préoccupation du quotidien, arrive à dominer ses problèmes et à agir avec vous.
Alors, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les personnes qui ont été aidées souhaitent aider à leur tour. Donc, ce sont des personnes qui s'investissent aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnes accueillies deviennent des bénévoles souvent. Et donc, ça permet de faire ce lien entre personnes accueillies et bénévoles. Alors, le principe d'action, il est important parce qu'effectivement, on fait un diagnostic généralement. On essaye de monter en compétence sur la vision de la pauvreté que l'on peut avoir sur notre rapport annuel. Et là, pour ça aussi, nous le faisons à l'échelle départementale. Et en fait, le but, c'est de vraiment pouvoir développer des projets qui soient en adéquation avec les attentes des personnes. Si je prends par exemple notre projet que nous avons développé à Puget-Théniers sur l'accès à une alimentation libre, digne et durable, elle a vraiment été travaillée avec les personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire. L'urgence est importante. Aujourd'hui, 9 millions de personnes font appel à l'alimentation d'urgence. C'est plutôt ça ce qui est scandaleux. Hein. C'est pas que les associations sont en difficulté, c'est plutôt qu'il y ait 9 millions de personnes
qui sont en demande.
Comment on peut travailler cette situation en lien avec les personnes pour qu'elles puissent être actrices en fait de l'aide qu'elles reçoivent, mais surtout actrice pour avoir toutes les clés en main pour en sortir aussi.
C'est à la fois exprimer ses besoins et donner des solutions pour ne plus avoir besoin d'une aide quotidienne,
d'aller réclamer un colis alimentaire ou un chèque service. Alors nous faisons de l'urgence au secours. On traite des situations. La situation en France aujourd'hui fait qu'on ne peut pas ne pas traiter cette urgence. Mais on souhaite aller au-delà et on souhaite que le travail que nous faisons sur le terrain à travers ce maillage territorial dont je parlais, puisse effectivement amener les personnes à s'investir une question aussi de démocratie, d'engagement citoyen, de redonner aux personnes leur place dans la société et non plus être utilisateurs, mais acteurs, en fait, de leur destin et de leur territoire. C'est ambitieux, mais on a des petites victoires tous les jours et c'est plutôt ça qui est chouette. Donc, si je reprends ce projet à Puget-Théniers, on a travaillé la question de l'accès à l'alimentation avec les personnes en précarité. Elles nous ont dit clairement qu'elles souhaitaient contribuer financièrement, qu'elles souhaitaient avoir une alimentation saine et durable. À Puget-Théniers, il y a des agriculteurs. Donc, nous avons travaillé, nous avons mis en lien ce besoin avec les agriculteurs locaux et on a mis en place ce projet de panier solidaire qui est ouvert à tout le monde. L'inconditionnalité, oui. C'est important chez nous.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont payer un panier à un prix normal et courant. Il y en a qui peuvent donner plus s'ils le souhaitent. Oui. Et il y en a qui vont contribuer à minima.
Tout à fait.
Pour dire effectivement, nous sommes des consommateurs.
Oui.
Et pas uniquement des bénéficiaires d'aide.
Tout à fait.
C'est ça le principe.
Voilà.
Hein.
Ils ont monté ce projet ensemble. Il y a des animations autour de la cuisine qui vont être faites, où en fait, les personnes bénéficiaires vont être à leur tour bénévoles. Alors, pour la distribution, mais aussi pour ces ateliers, dans le cadre de ces ateliers. Donc là, en fait, on voit le lien à un moment donné. Aujourd'hui, on a un projet au secours qui s'appelle Tous Acteurs. On est vraiment tous acteurs.
Et ces actions de panier solidaire, de boutique solidaire, d'atelier cuisine, c'est vraiment répandu sur tout le territoire français.
Alors, français, oui. France, oui, ça se développe vraiment beaucoup. Alors après, par exemple, les boutiques solidaires aujourd'hui, on en a 4. Il y a des délégations, il y en a partout, vraiment. C'est un moyen, à un moment, de toucher une certaine mixité. On est dans un, aujourd'hui, beaucoup de gens vont acheter de la seconde main, pas pour des questions financières, mais par principe, dans le cadre du développement durable. C'est aussi tout ce lien que l'on fait aussi entre une économie vertueuse, locale, qui réutilise finalement, qui ne produit pas sans cesse, mais qui réutilise ce qui est ancien. Et donc, là encore, cet enjeu de mixité sociale, on la retrouve dans nos boutiques. C'est-à-dire que toutes sortes de publics se retrouvent, et ça aussi, c'est plutôt chouette.
Oui, à la fois ceux qui ont besoin et ceux qui peuvent contribuer en achetant vos
produits. Et je dirais qu'aussi, dans notre accueil de jour à Nice, il y a des gens du quartier qui sont seuls, qui n'ont pas forcément besoin. Mais je me faisais la remarque en montant ici, il y a beaucoup de cafés qui sont fermés. Mmh. Autrefois, les cafés jouaient un peu ce lieu où on se retrouvait. Voilà, enfin, on le sait, j'ai travaillé en milieu rural, c'est l'importance du café dans un village. Eh ben, notre accueil de jour dans le quartier à Nice de la gare, en fait, il y a des gens du quartier qui viennent juste prendre un café.
Vous pouvez peut-être nous préciser où se trouve l'accueil à Nice.
À Nice. Il est au 23 rue Paganini.
Oui, donc effectivement,
voilà, près de la gare. Et donc, il y a toutes sortes de publics qui viennent. Voilà, et moi aussi, je vais boire un café le matin, souvent là-bas.
Vous avez aussi toute une notion de partenariat, de réseau, localement, globalement. Comment ça se met en place, sachant qu'il y a beaucoup de diversité culturelle, religieuse, ethnique, parmi les gens que vous accueillez. Mm-hmm. Comment vous arrivez à les faire travailler en réseau, être en accord avec d'autres associations qui œuvrent avec eux?
On se retrouve sur les valeurs, en fait, souvent. Enfin, on essaye de trouver justement qu'est-ce qui fait que nous sommes tous au Secours catholique et c'est ça qui nous fait rejoindre. Alors, je disais tout à l'heure que c'était pas toujours facile. C'est très ressourçant de travailler avec des bénévoles et de travailler sur cette solidarité qui s'organise de façon très spontanée. Et en même temps, c'est vrai qu'on doit lever pas mal de barrières. Donc, on travaille aussi à la tolérance, à l'acceptation de l'autre, ce qui n'est pas évident. Mais en fait, on contribue à un monde plus juste et plus fraternel, en fait, en faisant ça. On apporte notre petite pierre.
Et justement, au-delà des personnes qui viennent chez vous, dans la société civile, comment on fait pour agir sur ces causes de précarité et d'exclusion ? Parce qu'il y a à la fois les causes, je dirais, pratiques, salaires, etc. Mais il y a aussi un rejet d'une partie de la population vers ces gens, vers les SDF, vers les gens qui nous renvoient une image de pauvreté qu'on n'a pas forcément envie de voir. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que vous avez des actions de plaidoyer dans les écoles? Est-ce que vous allez voir effectivement d'autres associations pour faire évoluer cette idée? Le pauvre, ce n'est pas uniquement l'autre, ça peut être nous à un moment donné, et on est tous solidaires.
Tout à fait. Alors, il y a différentes actions. Comme je disais, le plaidoyer. Tous les ans, le Secours catholique sort plusieurs rapports, pas uniquement le rapport sur la pauvreté.
Donc celui-là, il est sorti en novembre.
Il est sorti en novembre. Un boulot de dingue est sorti juste avant. C'était pour répondre un peu à la phrase de notre président, un pognon de dingue. Mais c'était aussi pour faire valoir, en fait, quand on touche le RSA, on n'est pas inactif. Beaucoup de nos accueillis sont des personnes bénévoles, sont des personnes au RSA, justement, qui veulent s'engager. En fait, pour les autres, en fait. Enfin, pour eux et pour les autres. Donc, ça déconstruit un petit peu aussi les idées reçues par rapport à des gens qui pourraient profiter, en fait, du système. On va dans les écoles. C'est passionnant. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire une ou deux fois. Je trouve que c'est planter des graines et souvent, les jeunes sont vraiment très réceptifs à ce que l'on peut faire. Donc là, c'est important. On fait des jeux avec eux, justement. Des jeux, on fait une animation très spécifique sur la pauvreté, sur plein de sujets, sur l'environnement. Et après, effectivement, nous avons même vis-à-vis de notre réseau des actions de sensibilisation. On sait que sur le département, la question migratoire peut diviser. On le sait, enfin c'est voilà. Et donc même dans notre réseau, c'est quelque chose sur lequel on parle beaucoup, parce que dès lors que les personnes sont là aussi, on leur doit aussi un accueil digne, voilà. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors on est, si on écoute la question mondiale, ce que nous dit le pape aujourd'hui, que la question de la pauvreté et de l'écologie sont extrêmement liées, et c'est vrai. Ces questions migratoires, on peut pas les déconnecter aujourd'hui d'une situation économique mondiale dramatique et du réchauffement climatique aussi. Donc voilà, c'est aussi comme expliquer pourquoi ces gens sont là, pourquoi ils ont fait ce parcours, ces milliers de kilomètres semés d'embûches, souvent d'histoires tragiques, qui les ont menés jusqu'à nous. Enfin voilà, c'est aussi important d'en parler et de pouvoir exprimer en fait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est plutôt enfin pas gâtés, mais en fait voilà, on habite en France. La pauvreté est là aussi, mais voilà, c'est comment aussi on est conscient en fait de tous ces enjeux aujourd'hui.
Et par rapport à ces populations, comment vous arrivez à apporter une dimension spirituelle ? Parce que ça fait partie effectivement de vos principes, de pouvoir porter attention justement à une dimension spirituelle. On a l'impression souvent que ces personnes qui sont noyées dans les difficultés ont du mal à sortir intellectuellement ou psychologiquement de cet état de fait. Vous avez des ateliers, vous avez des rencontres plus festives, au-delà de l'aide caritative.
Tout à fait. On a ces milieux. Alors, on a ces temps. En fait, notre action, elle est basée avant tout sur l'accueil. Toute équipe du Secours catholique fait de l'accueil, quel que soit finalement l'objet de son activité. Donc, le premier socle de formation qu'on donne aux bénévoles, c'est comment écouter, en fait. Comment on agit et on écoute en même temps. Et ça, ça se passe dans la convivialité, c'est-à-dire que tous nos accueils, par exemple, on offre le café, on a une écoute active, enfin là, on est là aussi vraiment pour accueillir la personne dans son entièreté. On ne va pas forcer les choses non plus. Mais par contre, ce qui est important, je peux en parler, c'est la question de l'aller vers. En fait, on sait que toutes les institutions se penchent aujourd'hui sur cette question, nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait d'accès aux droits tout à l'heure. Alors, il y a toutes ces personnes qui viennent boire un café dans nos accueils, qui n'ont pas envie de parler forcément de leurs problèmes, mais juste se retrouver tous les jours, pouvoir discuter. Et finalement, c'est se dire comment nous, aujourd'hui, on peut essayer d'aller un peu plus loin avec eux pour les sortir de cette pauvreté ou de leur situation qui permettrait, en fait, de leur donner toutes les clés en main pour pouvoir vivre dignement en France ou alors le long de leur parcours. Donc, c'est... Et ces moments-là de convivialité, de repas partagés que nous organisons, de réunions tout simplement, de retrouvailles, sont extrêmement importants.
Et est-ce qu'il y a parmi à la fois les bénévoles et les gens bénéficiaires des freins à justement cette participation active ? Parce que pour les bénévoles qui sont depuis longtemps dans votre association, c'est un peu un changement de vision. C'est-à-dire que même s'ils respectent et qu'ils accueillent les autres personnes, les faire intervenir dans un schéma décisionnel et de mise en place d'action, est-ce qu'il y a des freins ? Comment vous arrivez à convaincre ces gens ? Je pense qu'il y en a qui sont convaincus d'emblée, et puis il y a peut-être des gens qui doivent remettre un peu en question leurs acquis.
Complètement. C'est un problème qu'on retrouve tout le temps, en fait, tout le temps.
Mais on retrouve dans toute association qui évolue.
Dans toute association, toute délégation du Secours catholique, il y a une certaine satisfaction. Enfin, on voit souvent les gens nous appellent pour faire du bénévolat, nous demandent si on fait des maraudes. On n'en fait pas au Secours catholique. On ne distribue pas de colis alimentaires. On a des aides financières. Alors, c'est vrai que c'est bien de donner un chèque. On est satisfait d'avoir donné un chèque service, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a apporté à la personne ? C'est pas ça le plus important. C'est peut-être ce qui va se passer avant, après. On l'aide dans l'urgence. C'est pour ça que je dis, il y a des situations d'urgence où on doit de toute façon intervenir. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est ce qui va se passer après, avant, autour, en fait, de cette aide d'urgence. Et effectivement, il y a tout ce changement de prisme à faire auprès de nos réseaux. On y travaille par de la formation, par de l'échange de pratiques aussi. entre équipes qui permet finalement de dire ah oui ça tu fais ça comme ça ah oui c'est bien ah les personnes participent c'est super enfin voilà donc il y a cet échange à l'intérieur du réseau qui permet à un moment donné aussi de sortir de cette approche distributive qui a son importance mais qui n'est pas notre action, notre principe d'action majeur en fait.
Oui, alors justement, dans les moyens d'action, vous avez effectivement, bah, l'objectif, ce serait qu'effectivement tout le monde subvienne à ses besoins vitaux et à ceux de ses proches. Quelle est la part d'aide directe que vous apportez? On a effectivement un peu du mal, au vu de ce que vous avez expliqué. Vous avez effectivement des aides alimentaires, vous avez des chèques-services. Et ensuite, vous accompagnez des gens sur une longue période, sur une petite période. Est-ce que vous les aidez à trouver un logement ou est-ce que vous les renvoyez vers d'autres associations?
Alors, on ne se substitue pas aux institutions et au ce qui est dû par l'État ou les collectivités à leurs compétences, en fait. En revanche, on les accompagne, on oriente vers les institutions, on appelle des fois à la place des personnes, enfin, on les accompagne dans leur démarche. Et après, si effectivement on voit qu'il y a un blocage ou qu'on pourrait apporter une aide significative vis-à-vis de certaines personnes, on le fait. Il nous arrivait de payer une voiture à certaines personnes qui sont en pleine insertion par le travail, qui ont trouvé un job, qui habitent loin, qui ont besoin d'une voiture, il n'y a pas de transport en commun. Encore une fois, je veux dire, mon credo, c'est pas d'aide financière sans plaidoyer. C'est-à-dire que derrière toute aide financière, il y a un plaidoyer à porter.
Vis-à-vis des institutions.
Voilà, oui.
En disant, on s'est substitué parce qu'il y a...
Alors, on s'est substitué, oui, mais pourquoi aujourd'hui, quand on trouve un travail et c'est important pour les gens, bah, on ne peut pas y aller, ou c'est difficilement accessible. Pourquoi, quand on aide, comme je disais tout à l'heure, une famille à payer la cantine scolaire, il n'y a pas de tarifs sociaux? Pourquoi, si on paye aussi un abonnement de bus pour une personne qui habite dans l'agglomération de Nice, c'est compliqué d'avoir un tarif social adapté? Enfin voilà, on est toujours en train de questionner, voilà, pour que finalement... je dirais qu'on n'est pas dans l'opposition, on est aussi dans l'accompagnement des institutions quelque part, c'est-à-dire comment finalement nous, en étant sur le terrain, en alerte constante vis-à-vis des personnes qui ont des besoins spécifiques, on peut aider aussi à construire les politiques publiques. On a notre voix et en fait on porte la voix des personnes que nous aidons et qui sont des acteurs du Secours catholique.
Alors ça rejoint une de mes questions futures, mais je vais l'avancer. Comment sont vos relations, d'une part avec les institutions, et d'autre part avec les associations, je dirais, partenaires?
Avec les associations, plutôt bien. Nous essayons, dans la mesure du possible, dès que nous avons une implantation, de travailler en coordination. Il y a souvent des CCS qui font des réunions d'associations. Voilà, on essaye de travailler vraiment en bonne intelligence. Avec les communes aussi, nous travaillons très bien avec les CCS. De façon générale.
Dans les centres communaux d'action
oui,
sociale.
Oui, excusez-moi, des centres communaux d'action sociale. En revanche, il semblerait que nous soyons vraiment à un tournant. Alors, on le dit tout le temps, mais là, je le sens parce qu'effectivement, il y a des lignes rouges qui ont été franchies, je pense, depuis quelques temps. La question des femmes enceintes à la rue, des enfants à la rue, sur lesquels on ne trouve jamais de solution.
Alors en hébergement.
En hébergement, oui. Pour moi, c'est incompréhensible. Je ne pensais pas voir ça. En fait, dans ma vie, enfin, pas dans ma vie, ça existe, mais en fait, je ne pensais pas le voir à si grande échelle, où finalement, quand on interroge l'État, on ne nous apporte pas des réponses, où on nous dit construisez, aidez-nous à construire plus de logements, mais en fait, c'est pas notre rôle. À un moment donné, comme je disais, il y a 22 communes carencées, il y a tout un, chacun a sa compétence. Est-ce qu'on peut à un moment donné aussi se mettre tous autour d'une table, enfin, les institutions et les associations, nous qui apportons vraiment notre vision de terrain, des problématiques rencontrées? Comment on peut travailler ensemble pour finalement apporter des solutions concrètes? L'impact social de la pauvreté, l'impact sur la société de la pauvreté, de l'isolement et autres, on ne le mesure pas, mais il est énorme. Il est énorme en termes de violence, enfin, de plein de choses en fait. Quand la Fondation Abbé parle de bombe sociale, enfin, je suis complètement d'accord. En fait, aujourd'hui, mais dans tous les sens du terme, on ne peut pas rester sur cette situation-là, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux pas l'entendre. Ce qui me porte, et c'est vrai que souvent, c'est ce que je dis aux jeunes quand on va les voir dans les écoles, indignez-vous. Indignez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà, encore une fois, quand une femme va accoucher et qu'au bout de 15 jours, elle retourne à la rue parce qu'elle n'a pas de logement et que l'hôpital même nous dit « Ok, on va la garder 15 jours parce qu'on ne peut pas la laisser sortir », je me dis « C'est pas possible ».
Et ça n'est pas en voie d'évolution pour l'instant?
On travaille avec les partenaires, on le fait valoir, on porte ces situations. Et c'est important qu'on les porte. Et c'est pour ça que je dis aux bénévoles, portons. Et là, on va essayer, aujourd'hui, on travaille pour essayer de, comment dire, de rassembler toutes ces situations pour porter un plaidoyer plus large, en fait, au sein des associations. Et voilà, à connaissance, en fait, pour porter à connaissance, en fait. De nos
oui, parce que je pense que pour le public, grosso modo, n'a pas conscience de ce que vous expliquez comme une bombe, c'est-à-dire de situations qui vont dégénérer, qui se transmettent aux enfants, etc.
Tout à fait. Et qui auront un... Alors, je vais parler comme les gestionnaires des institutions, qui auront un coût à un moment donné.
Et un impact et un coût.
Donc, travaillons ensemble pour la prévention et pour surtout le maintien de la dignité à tous les niveaux de notre société.
Alors, sur des actions spécifiques, par exemple sur le logement, est-ce que vous avez des préconisations? Vous avez évoqué justement le fait que vous faisiez remonter les besoins. Est-ce que vous avez des actions directes? Vous ne faites pas comme certaines communautés qui construisent des logements ou des hébergements, mais vous réservez des chambres d'hôtel pour des personnes en situation difficile.
Alors, ça peut arriver. Là encore, on répond à une urgence. Mmh. C'est-à-dire que sur la question du logement, on peut avoir plusieurs actions. C'est vrai que pour l'instant, on est en train de développer, en tout cas, ces actions. Effectivement, quand on reçoit une famille, ça fait 10 jours qu'ils sont à la rue, il fait froid dehors, on paye quelques nuitées d'hôtel et on se dit, j'admire un peu nos bénévoles parce qu'en fait, ils le font, mais ils savent que dans 5 jours, ça sera fini. Ils retourneront à la rue. Donc, on essaye de tout mettre en branle pour qu'ils puissent trouver un logement. On appelle le 115, on appelle les associations. Généralement, c'est un petit peu, on se retrouve un peu démunis face à ces situations, mais on le fait. On essaye parce que offrir un moment de répit, je pense que c'est important aussi. Enfin, voilà, on essaye de faire dans la mesure du possible. On a toutes ces actions de plaidoyer où, en fait, effectivement, on revendique par rapport au logement. La question dans le Sud, elle est assez criante.
Oui, compte tenu du coût de l'immobilier.
Oui, par rapport à l'immobilier. On va essayer de se lancer dans des actions plus, peut-être, des permanences d'allo, qui sont du droit au logement, en fait, qui permettent aux gens, en fait, de faire valoir leur droit à l'accès à un logement social. Donc, on est en train d'y réfléchir, en fait, localement, pour avoir une action plus en profondeur, plus à la mesure de nos moyens, et peut-être plus constructive, en fait, aussi avec nos partenaires. Mais clairement, je le répète encore, hein, 3 fois, mais 22 communes carencées, on n'avancera pas si chacun ne prend pas sa part de responsabilité.
Et là, c'est au niveau politique que la responsabilité doit être prise. Et sur les actions spécifiques vers les femmes, donc vous avez évoqué les jeunes mères ou les mères récentes qui sont à la rue. Est-ce qu'il y a vraiment des actions spécifiques vers cette population qui est la majorité des personnes à la rue ou en précarité, hein, parce qu'elles peuvent être dans un logement mais ne plus pouvoir assumer l'ensemble des charges. Ou est-ce que c'est une politique globale? Alors nous, pour vous, il n'y a pas d'action spécifique femmes ou quand même si?
Si, on peut le distinguer, par exemple, comme notre accueil de jour, qui est très fréquenté par des hommes, en fait, hein, qui sont à la rue. Les femmes étaient très mal à l'aise pour venir, donc on a créé un espace dédié aux femmes. Alors ça peut être des femmes qui viennent tous les matins, qui aimeraient trouver un moment de répit. On sait que la situation des femmes à la rue, franchement, c'est dramatique. Il y a des associations spécialisées sur Nice qui agissent pour les femmes. On essaye d'être un peu plus adapté à cette demande et surtout à écouter en fait les problématiques. Mais du fait de notre accueil inconditionnel, on en reçoit beaucoup aussi et on essaye de trouver avec nos partenaires des solutions adaptées. Voilà, par rapport à leur situation. Après, les femmes, elles viennent beaucoup dans nos boutiques aussi solidaires. Elles sont beaucoup aussi dans beaucoup d'ateliers qu'on offre, les cours de français langue étrangère, l'accompagnement. Global ou individuel, on les retrouve. Mais c'est vrai qu'on a peu d'actions très spécifiques. On pourrait le développer et avec des partenaires, je pense que ça serait très intéressant.
Oui, parce qu'il y a des associations qui sont très spécifiques par rapport à ça.
Oui.
Est-ce qu'on peut évoquer, justement, les principales situations d'urgence dans les Alpes-Maritimes, rappeler, puisqu'on les a évoquées tout au cours de... Là, pour vous, l'urgence actuellement, c'est les migrants, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est...
ça serait difficile de les hiérarchiser, franchement.
Oui.
Alors, on a eu effectivement des crises là récemment par rapport aux migrants, alors surtout par rapport aux mineurs non accompagnés. On a eu une arrivée assez massive de jeunes qui étaient cet été en fait, qui étaient laissés en fait à la rue, qui n'étaient pas pris en charge ni par le conseil départemental ni par la police, parce qu'il y a un système local qui fait qu'ils doivent d'abord aller à la police avant d'être pris en charge. Il y avait un engorgement. On ne s'attendait pas en fait à ce qu'il y ait un tel, mais du coup, ils n'étaient pris en charge par personne. Et c'est vrai que beaucoup de nos bénévoles ont vraiment été émus parce qu'ils étaient jeunes, hein. Enfin, pour beaucoup, ils étaient jeunes. Ils le sont, hein. Enfin, ceux qui arrivent aujourd'hui le sont encore, ont été mis. Donc, on a apporté vraiment de l'aide d'urgence. Et par contre, on a fait des actions avec d'autres associations pour que leurs droits puissent être respectés. Une prise en charge effective, en fait. Ces jeunes, en fait, si on ne les prend pas en charge, ils partent dans les réseaux. On les retrouve à Marseille, dans des trafics de tout genre. Pour les plus chanceux, ils vont dans un autre département, ils arrivent à être pris en charge. Mais il y a un vrai enjeu par rapport à ça, par rapport au trafic aussi. Hein. Donc, on a essayé de contenir en les accompagnant jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par le département, mais c'est pas évident. Donc,
oui, c'est une mesure de protection indispensable.
Oui.
Je vous remercie, mais avant de passer à la conclusion, nous allons écouter Christophe Maé, Les gens.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens soulageants. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça.
Eh bien, nous terminons notre émission Parlons des droits humains consacrée ce soir au thème de la précarité en France avec Karine Djewulski, déléguée départementale 06 du Secours catholique Caritas. Karine, qu'est-ce que vous souhaiteriez laisser comme message à nos auditeurs ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, notre mission, lutter contre la pauvreté, l'isolement et développer le pouvoir d'agir des personnes, je pense que c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui doit être développé un peu plus partout. C'est un enjeu de citoyenneté, comme je le disais, de démocratie aussi, où chacun devient acteur de sa vie et aussi de son territoire, de sa communauté, de son lieu de vie. Ça, c'est un principe qui est important et sur lequel, en fait, nous espérons pouvoir apporter notre petite pierre avec l'ensemble des bénévoles et des personnes en précarité. Plus que jamais aujourd'hui, on doit agir parce qu'il y avoir un sursaut de solidarité, d'entraide. On est face à un constat assez dramatique en France. 9 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, des personnes très vulnérables qui sont à la rue, femmes, enfants, personnes malades. Clairement, ce n'est pas notre rôle, association, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Il faut qu'il y ait un socle commun. Et ça, on doit le porter. On doit le porter avec tous. Et on doit s'en indigner, en fait, pour pouvoir agir auprès des institutions et des personnes qui ont la compétence pour le faire. Et mais pour mener nos actions, alors qu'elles soient sur le terrain ou en termes de plaidoyer aussi, on a besoin de personnes engagées.
De bénévoles.
De bénévoles. De militants aussi, je pense que c'est aussi une question d'engagement, de personnes qui ont envie d'agir au quotidien pour voilà pour améliorer le cadre, leur cadre de vie, la solidarité dans leur environnement, voilà. Et en fait, au secours, ce qu'on a, c'est qu'on a un maillage territorial assez vaste qui permet en fait des personnes d'agir à n'importe quelle échelle sur des activités qui sont très vastes. Nous accueillons les bénévoles avec leurs projets. Si quelqu'un vient nous voir et nous dit « je veux faire un atelier couture, un atelier laine, je veux faire un atelier cuisine », eh ben, il est le bienvenu, franchement. Nous accompagnons les projets aussi au secours et toute personne est la bienvenue dès lors qu'elle est vraiment dans notre projet avec nos principes d'action qui sont de pouvoir agir avec les personnes en précarité et dans un cadre démocratique. Nous souhaitons aussi développer les partenariats avec le monde associatif, c'est important. Nous n'aimons pas agir seuls, ça n'a aucun sens en fait. Nous vivons dans un monde formé d'associations avec des projets différents, des personnes différentes. Donc c'est important aussi que nous puissions avoir cette démarche en fait assez inclusive avec le monde institutionnel et le monde privé. Pourquoi pas avec les entreprises aussi. Et pour ça, comme je disais, on a besoin de personnes engagées, mais aussi de dons qui nous permettent de mener à bien nos actions au quotidien. Notre force, voilà, c'est nos bénévoles sur le territoire, les projets que nous développons et des dons qui nous permettent de réaliser tout cela.
Voilà donc un appel aux bénévoles, hein,
oui,
pour venir vous soutenir.
Et partager la fraternité surtout.
Et voilà, c'est particulièrement important. Est-ce que vous avez des actions ou des événements à venir dans un avenir proche?
Alors, au printemps, on participera au printemps des migrations sur Nice. Le programme n'est pas encore déterminé, mais voilà, on l'a fait l'année dernière avec un cycle de courts-métrages. C'était assez intéressant, avec beaucoup de débats publics. Donc là, on est en train de voir un petit peu ce que nous pourrons faire. Et tout au long de l'année, effectivement, il peut y avoir dans notre accueil, alors c'est beaucoup dans notre accueil de jour ou dans certaines équipes, des repas partagés qui sont ouverts à tous de façon inconditionnelle. Pour ça, il faut aller sur le site du Secours catholique, hein, ne pas hésiter à prendre contact avec notre siège avenue Durante ou alors de prendre contact avec les équipes sur le terrain.
Eh bien voilà qui est dit, allez sur le site du Secours catholique. Karine Dziwulski, merci beaucoup. Et à tous, passez une bonne soirée. Vous pouvez réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur. Et cette émission sera par ailleurs rediffusée le lundi 4 mars à 21h sur Agora. Nous vous donnons donc rendez-vous pour notre prochaine émission parlant des droits humains qui aura lieu le lundi 18 mars 2024 et nous parlerons de la fin de vie et des soins palliatifs. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.